Avec des millions, on aurait obtenu difficilement de pareilles soirées où l'on parlait de tout avec esprit, où la mise soignée n'était pas de rigueur, où l'on était à son aise au point d'y demander à souper. Les deux sœurs écrivaient à qui leur plaisait, recevaient tranquillement des lettres à côté de leur mère, sans que jamais la baronne eût l'idée de leur demander de quoi il s'agissait. Cette adorable mère donnait à ses filles tous les bénéfices de son égoïsme, la passion la plus aimable du monde, en ce sens que les égoïstes, ne voulant pas être gênés, ne gênent personne, et n'embarrassent point la vie de ceux qui les entourent par les ronces du conseil, par les épines de la remontrance, ni par les taquinages de guêpes que se permettent les amitiés excessives qui veulent tout savoir, tout contrôler. Tu me vas au cœur, dit Blondet. Mais, mon cher, tu ne racontes pas, tu blagues. Blondet, si tu n'étais pas gris, tu me ferais de la peine. De nous quatre, il est le seul homme sérieusement littéraire. À cause de lui, je vous fais l'honneur de vous traiter en gourmet. Je vous distille mon histoire et il me critique. Mes amis, la plus grande marque de stérilité spirituelle est l'entassement des faits. La sublime comédie du misanthrope prouve que l'art consiste à bâtir un palais sur la pointe d'une aiguille. Le mythe de mon idée est dans la baguette des fées qui peut faire de la plaine des sablons un Interlaken. En 10 secondes, le temps de vider ce verre. Voulez-vous que je vous fasse un récit qui aille comme un boulet de canon? Un rapport de général en chef. Nous causons, nous rions, ce journaliste, bibliophobe à jeun, veut, quand il est ivre, que je donne à ma langue la sotte allure d'un livre. Il feignit de pleurer. Malheur à l'imagination française, on veut épointer les aiguilles de sa plaisanterie. Dies irae, pleurons Candide, et vive la critique de la raison pure. La symbolique et les systèmes en 5 volumes compacts, imprimés par les Allemands, qui ne les savaient pas à Paris depuis 1750, en quelques mots fins, les diamants de notre intelligence nationale. Blondet mène le convoi de son suicide, lui qui fait dans son journal les derniers mots de tous les grands hommes qui nous meurent sans rien dire. « Va ton train, » dit Finot. J'ai voulu vous expliquer en quoi consiste le bonheur d'un homme qui n'est pas actionnaire. Une politesse à couture. Eh bien, ne voyez-vous pas maintenant à quel prix Godefroy se procura le bonheur le plus étendu que puisse rêver un jeune homme? Il étudiait Isaure pour être sûr d'être compris. Les choses qui se comprennent les unes les autres doivent être similaires. Or, il n'y a de pareils à eux-mêmes que le néant et l'infini. Le néant est la bêtise, le génie est l'infini. Ces deux amants s'écrivaient les plus stupides lettres du monde en se renvoyant sur du papier parfumé des mots à la mode. Ange, harpe éolienne, avec toi je serai complet. Il y a un cœur dans ma poitrine d'homme. Faible femme, pauvre moi, toute la friperie du cœur moderne. Godefroy restait à peine 10 minutes dans un salon. Il causait sans aucune prétention avec les femmes. Elles le trouvèrent alors très spirituel. Il était de ceux qui n'ont d'autre esprit que celui qu'on leur prête. Enfin, jugez de son absorption. Joby, ses chevaux, ses voitures devinrent des choses secondaires dans son existence. Il n'était heureux qu'enfoncé dans sa bonne bergère en face de la baronne, au coin de cette cheminée de marbre vert antique, occupé à voir Isaure, à prendre du thé en causant avec le petit cercle d'amis qui venait tous les soirs, entre 11 heures et minuit, rue Joubert, et où on pouvait toujours jouer à la bouillotte sans crainte. J'y ai toujours gagné. Quand Isaure avait avancé son joli petit pied chaussé d'un soulier de satin noir, et que Godefroy l'avait longtemps regardé, il restait le dernier et disait à Isor « Donne-moi ton soulier ». Isor levait le pied, le posait sur une chaise, ôtait son soulier, le lui donnait en lui jetant un regard, un de ses regards, enfin, vous comprenez. Godefroy finit par découvrir un grand mystère chez Malvina. Quand Du Tillet frappait à la porte, la rougeur vive qui colorait les joues de Malvina disait « Ferdinand ». En regardant ce tigre à deux pattes, les yeux de la pauvre fille s'allumaient comme un brasier sur lequel afflue un courant d'air. Elle trahissait un plaisir infini quand Ferdinand l'emmenait pour faire une aparté près d'une console ou d'une croisée. Comme c'est rare et beau une femme assez amoureuse pour devenir naïve et laisser lire dans son cœur. Mon Dieu, c'est aussi rare à Paris que la fleur qui chante l'est aux Indes. Malgré cette amitié commencée depuis le jour où les Daldridger apparurent chez les Nucingen, Ferdinand n'épousait pas Malvina. Notre féroce ami Du Tillet n'avait pas paru jaloux de la cour assidue que Desroches faisait à Malvina. Car, pour achever de payer sa charge avec une dot qui ne paraissait pas être moindre de 50 000 écus, il avait faim l'amour, lui, homme de palais. Quoique profondément humilié de l'insouciance de Du Tillet, Malvina l'aimait trop pour lui fermer la porte. Chez cette fille, toute âme, tout sentiment, toute expansion, tantôt la fierté cédait à l'amour, tantôt l'amour offensé laissait la fierté prendre le dessus. Calme et froid, notre ami Ferdinand acceptait cette tendresse. Il la respirait avec les tranquilles délices du tigre léchant le sang qui lui teint la gueule. Il en venait chercher les preuves. Il ne passait pas deux jours sans se montrer rue Joubert. Le drôle possédait alors environ 1 800 000 francs. La question de fortune devait être peu de chose à ses yeux, et il avait résisté non seulement à Malvina, mais aux barons de Nucingen et de Rastignac, qui, tous deux, lui avaient fait faire 75 lieues par jour, à 4 francs de guide, postillon en avant et sans fil, dans les labyrinthes de leur finesse. Godefroy ne put s'empêcher de parler à sa future belle-sœur de la situation ridicule où elle se trouvait entre un banquier et un avoué. « Vous voulez me sermonner au sujet de Ferdinand, savoir le secret qu'il y a entre nous ?» dit-elle avec franchise. « Cher Godefroy, n'y revenez jamais. La naissance de Ferdinand, ses antécédents, sa fortune, n'y sont pour rien. Ainsi, croyez à quelque chose d'extraordinaire. » Cependant, à quelques jours de là, Malvina prit Beaudenord à part et lui dit « Je ne crois pas, monsieur Desroches, honnête homme, ce que c'est que l'instinct de l'amour. Il voudrait m'épouser et fait la cour à la fille d'un épicier. Je voudrais bien savoir si je suis un pis-aller, si le mariage est pour lui une affaire d'argent. » Malgré la profondeur de son esprit, Desroches ne pouvait deviner Du Tillet, et il craignait de lui voir épouser Malvina. Donc, le gars s'était ménagé une retraite, sa position était intolérable, il gagnait à peine, tout frais fait, les intérêts de sa dette. Les femmes ne comprennent rien à ces situations-là. Pour elles, le cœur est toujours millionnaire.